Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Elsie Lefebvre est là, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Et on continue cette discussion sur la réforme de la loi 101 présentée par le gouvernement Legault.
Ben oui, gros dossier. Donc,
de la grosse affaire.
Attendait. Ben oui, c'est ça. Donc, bon, on attendait ce dossier-là depuis longtemps. C'est un gros projet de loi que la CAQ dépose, 201 articles. C'est certain qu'on s'en va en commission, en consultation élargie là-dessus. Donc, on va en entendre parler pendant cette session-ci. Il risque d'avoir des consultations un peu pendant l'été, mais surtout à l'automne prochain. Mm-hmm. Donc, on va suivre évidemment l'évolution de tout ça. C'est encore très tôt là pour se faire une tête si oui ou non la CAQ et le gouvernement de M. Legault sont à la hauteur du défi. Parce que dans le fond, c'est ça, tu sais. Je pense qu'on est tous d'accord, Il n'y a pas si longtemps, le Parti libéral du Québec et du Canada ne reconnaissait pas la problématique de l'antisémitisation du Québec, notamment de Montréal. Et donc, depuis quelques mois, quand même, on a fait un grand pas. Tout le monde est d'accord. Donc ça, déjà, on a fait un pas en avant. Et donc, c'est pour ça que les attentes étaient si élevées envers la CAQ. C'est que on a comme un consensus historique. C'est pas arrivé depuis belle lurette, à savoir qu'on doit agir. Donc, je sais pas si on a le temps de faire un petit résumé là, des grandes mesures là, du projet de loi. Mais donc, un commissaire à la langue française, un ministère de la langue française et un ministre. Donc ça, c'est pas anodin. Donc, on va vraiment avoir quelqu'un au gouvernement qui va être préoccupé par cette question-là puis qui va pouvoir relayer ces préoccupations-là au Conseil des ministres et directement au Premier ministre. C'est quand même une bonne chose. On va renforcer le champ d'action de l'Office québécois de la langue française. Francisation Québec, donc ça, c'est intéressant. On a dénoté depuis des années des gros problèmes. Moi, quand j'étais députée, ça fait quand même un moment déjà, il y avait des listes d'attente en francisation, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pas tous les immigrants qui font des cours de français. Les taux de succès sont vraiment anémiques. Donc, et même quand on fait les cours, on réussit pas à parler français. Donc ça, je pense que c'est un gros maillon du projet de loi. Après ça, bon, il y a toutes sortes de choses. Tu sais, bon, hier, on parlait du statut des villes bilingues. Finalement, ça, c'est un peu un pétard mouillé parce que finalement, les villes bilingues, même s'ils ont moins de 10% de leur population, vont pouvoir garder leur statut s'ils passent une motion au conseil municipal. Donc, c'est un peu décevant. La loi 101 au Cégep, donc c'est pas là. Ça aussi, c'est décevant. Bon, on amène on en avait parlé aussi, là. Tu sais, donc, on va comme contingenter le nombre d'admissions pour les francophones et les allophones, tout en gardant place pour les anglophones.
Petite question ici qui était posée tantôt par Alexandre Moranville-Ouellet, avec qui j'ai discuté là des points forts de cette réforme proposée. Le fait peut-être de rendre ça contingenté, entre guillemets, les admissions au cégep anglophone, est-ce que ça n'a pas comme risque de rendre ça attrayant pour certains jeunes, le fait que ça soit vu comme un privilège?
Oui, tu touches un bon point. C'est d'ailleurs Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, ça a été un de ses arguments. Puis j'avoue que c'est assez, c'est qu'effectivement, c'est que dans le fond, on va contingenter. Donc, on va garder le niveau d'aujourd'hui pour les cégeps en anglais. Ouais. Et donc, au fil du temps, effectivement, il va y avoir supposément moins d'espace pour les francophones et les allophones. Donc, oui, ça va devenir plus contingenté, donc possiblement plus attrayant. Donc, ça sera peut-être juste les meilleurs étudiants qui vont pouvoir entrer. Je pense qu'ils ont quand même une bonne approche par rapport aux anglophones parce que eux se plaignaient que finalement, il y avait des anglophones qui finissaient par même plus avoir de place parce que il n'y avait pas nécessairement des assez bonnes notes. Donc ça, on garde ça. Mais il y a vraiment, il y a un enjeu parce que, tu sais, 50% des places de cégep à Montréal sont en anglais. Donc, tu sais, je pense qu'on va reparler de cette question-là dans le futur, c'est certain. Après ça, dans les autres choses, bon, ben c'est ça. C'est l'affichage, on va toucher l'affichage, c'est pas clair. Donc, prédominance du français dans l'affichage. Donc, comment ça va se décliner sur le terrain, je ne sais pas. Le bonjour aïe. Donc, le bonjour aïe, ça, moi, ça me déçoit un peu dans le sens où, tu sais, ça fait consensus. Il y a eu une motion votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale comme quoi on devait accueillir les clients avec un bonjour et donc de dénoncer le bonjour.
Oh, arrête avec ça, pour vrai. Là, si on accueille en disant bonjour aïe puis qu'on peut transitionner vers le français ou vers l'anglais, là, tu sais, on est quand même dans un pays bilingue, là, puis dans certaines villes.
Ben non, c'est ça, Geneviève. On n'est pas dans un pays bilingue, c'est exactement. Et le projet de loi aujourd'hui, c'est exactement ce qui vient statuer, c'est que non, il y a seulement dorénavant le français est la seule langue officielle et commune au Québec. Donc,
OK, mais le Québec, aux dernières nouvelles, c'est pas un pays. Là. On habite dans un pays qui s'appelle le Canada. Et au Canada, on se targue d'être un pays bilingue, qu'on puisse, dans une grande ville canadienne comme Montréal, dire bonjour, hey, au centre-ville. Puis après, là, je suis d'accord avec toi, là. Vraiment, il faut pouvoir se faire servir en français, mais qu'on accueille les clients en bilingue. Moi, je trouve que cette affaire-là, je trouve ça exagéré tellement, là. C'est comme une tempête dans un verre d'eau. C'est comme le bonhomme 7 heures.
Peut-être, mais, tu sais, là-dessus, il reste que l'Assemblée nationale, à l'unanimité des quatre partis, ont dénoncé cette pratique-là qui se vit effectivement à Montréal. Et tout le fondement du projet de loi de la CAQ aujourd'hui, c'est de justement parler du français comme notre seule et unique langue commune et donc et langue officielle. D'ailleurs, la trame narrative, ça, c'est parce qu'on va pouvoir débattre dans les prochaines semaines à savoir est-ce que oui ou non les mesures vont assez loin. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de documentation à savoir est-ce que les mesures, tu sais, quelle mesure va avoir quel impact. Donc ça, c'est difficile de quantifier, finalement, au bout de 5, 10, 20, 30 ans, l'impact des différentes mesures. Mais la trame narrative, par contre, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je ne sais pas si je peux t'en lire un passage, mais c'est vraiment, on va loin quand même. Donc, la réforme que nous proposons cherche à redonner à la nation québécoise la place légitime qui lui revient après plus de 50 ans de négociations constitutionnelles. Une troisième voie s'ouvre devant nous. Le Québec, fier de ce qu'il est, et plus confiant que jamais, inscrivant dans la Constitution par lui-même son existence nationale et l'importance fondamentale qu'il accorde à sa langue officielle et commune. Soyons à la hauteur de nous-mêmes. Et ça continue. Bref, tu sais, il y a un message fort et un positionnement fort de la CAQ. Tu sais, on sait, François Legault, bon, était un grand souverainiste à l'époque, maintenant il n'est plus.
Mais c'est un parti nationaliste quand même, la CAQ.
C'est ça. Exactement. Donc, pour lui, aujourd'hui, il est fier, tu sais. Donc, il est très fier du legs. Puis, il l'a dit, tu sais. Donc, depuis la loi déposée par Camille Lorrain, il n'y a pas eu de changement législatif aussi important que ce qu'il propose aujourd'hui. Est-ce que ce sera assez? C'est une chose. Mais on peut quand même aujourd'hui donner à François Legault le crédit d'aller quand même, d'ajouter du moins du mordant aux différentes lois. Puis donc, il y a des choses vraiment intéressantes qui sont déposées aujourd'hui. Donc, on va pouvoir en reparler là, parce que tu sais, il va falloir l'analyser dans le menu détail, mais en tout cas, il y a un grand coup à donner, il faut se dire. Là, donc, le français menace au Québec.
Je pense qu'on peut se féliciter d'être allé all-in pour titiller ta fibre unilingue francophone.
C'est ça, le Québec, c'est ça la charte de la loi 101, finalement, c'est de reconnaître le statut du français.
Il faut faire attention au polissage, à mon sens, parce que avec ce polissage-là, dans certains amendements de cette réforme qui est proposée, je pense qu'on va perdre une partie de notre population. Et je pense entre autres aux jeunes qui ont été élevés dans une espèce de métissage linguistique là, qui est pas toujours heureux. Mais faut les ramener, tu sais, par la porte en arrière, ces jeunes-là. Il faudra trouver des façons.
Ben c'est pas parce qu'on défend le français puis sa force au Québec qu'on est contre la diversité, bien au contraire.
Bien sûr, donc, je pense qu'il faut le dire, ça.
Ben oui, c'est ça. Donc, de connaître l'anglais, de connaître l'espagnol, peu importe les autres langues, mais d'être fier du français qui est dépositaire de notre culture ultimement, puis qui fait que le Québec se démarque à travers le monde finalement, parce que ça, on était tous pareils, ça serait plate, on ne voudrait pas voyager dans le monde. Donc, c'est toute cette mondialisation-là vient du fait qu'il y a plein de cultures différentes, puis la préservation du français fait que nous, ben, au Québec, on est différents dans toute notre mixité. Puis oui, tu sais, on reconnaît toujours le droit des anglophones et des minorités, mais sauf que si on fait rien, ben, on va juste devenir comme un nouvel État des États-Unis complètement anglophone. Puis,
mais ça, t'as raison. On peut pas laisser ça aller. Ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. On se parle de vaccination, là, ça se passe bien, la vaccination des jeunes. Yo, les jeunes, les gens sont au rendez-vous. Mais là, AstraZeneca sera plus utilisé pour les premières doses.
Non, c'est ça. Donc, grosse nouvelle, ben on s'y attendait parce qu'on a vu les autres provinces canadiennes qui ont annoncé que c'était terminé pour le AstraZeneca, puis dans bien des cas, c'est terminé même pour la deuxième dose. Donc, on attendait le comité québécois sur cette question-là. Donc, c'est terminé pour des nouvelles injections d'AstraZeneca. Ceci dit, ça semble encore ouvert pour une deuxième dose. En même temps, j'imagine que le gouvernement gagne un peu de temps parce qu'on n'est pas rendu aux deuxièmes doses. Quoique ça va venir vite parce que le temps passe plus vite. Donc, bref, moi, je m'attends à ce que le gouvernement ait à se reprononcer sur cette question-là. D'ailleurs, on va devoir aussi peut-être rassurer la population parce qu'avec une nouvelle comme celle-là, ceux qui ont eu un vaccin AstraZeneca, je ne sais pas comment ils sentent aujourd'hui d'apprendre ça.
Mais il y en a qui se sentent floués puis ça fait un petit bout, pour vrai, comme s'il y avait une espèce de vaccin de seconde zone. Il y a bien des gens là qui sont frus.
Ben exactement, mais en même temps, tu sais, au Québec, je pense qu'on a fait bien les choses parce que les gens, tu sais, avaient vraiment comme un choix libre et éclairé. Puis quand les gens ont commencé à se faire vacciner avec AstraZeneca, on connaissait déjà les risques associés à ce vaccin-là. Moi, l'autre chose, par contre, c'est que les vaccins, là, on va recevoir à peu près 600 000 doses de vaccins au Canada AstraZeneca. Mm-hmm. Puis là, on va accepter les vaccins, mais ça, rappelons-nous que c'est les vaccins qui viennent de la banque COVAX, donc
mais qu'on est supposé redonner aux autres pays, c'est ça?
Ben exactement. Donc, il y a déjà la base que le Canada pigeait dans cette banque-là. Je trouve que c'est un peu gênant, tu sais. Mais à l'époque, on n'avait pas du tout de vaccin. Donc, on se disait, bon, ben, on va aller chercher les vaccins auxquels on a droit. Mais là, aujourd'hui, on devrait laisser les vaccins, peu importe que ce soit des AstraZeneca, des Pfizer ou des Moderna, on devrait les laisser dans la banque des pays pauvres parce que le Canada réussit à avoir les doses dont il a besoin.
Ah, mais elle sait.
Si on faisait ça, ça réglerait le problème.
Oui, mais c'est pas un peu, comment je te dirais ça? C'est pas un peu aussi douteux qu'on fasse, bon, ben, nous, on n'en veut pas vraiment d'AstraZeneca, fait qu'on va le donner aux pauvres. Tu sais, c'est comme donner des pâtes séchées à Noël, tu sais, puis pas donner, genre, les bonnes barres de chocolat puis les chips au bacon.
Ben oui, c'est sûr, effectivement.
Moi, j'ai un malaise.
D'où l'idée que le fédéral aurait dû d'emblée annoncer que dorénavant, puisqu'on avait nos doses, on n'allait plus participer à prendre les doses. Puis d'annoncer une position claire, non pas seulement sur l'AstraZeneca, mais sur le Pfizer et le Moderna aussi, parce que dorénavant, on est capable d'être autosuffisant, entre guillemets, dans notre réception là, des doses. Donc, bref, une petite patate chaude d'AstraZeneca.
Une autre.
Mais une autre, effectivement. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, la vaccination va bon train. Ça va être intéressant de suivre, tu sais, parce qu'on entend dans les médias tout le temps, puis le ministre Dubé aussi, on atteint bientôt, on veut atteindre le 75, mais c'est 75% d'une seule dose. Le défi, ça va être d'attirer les gens pour avoir la deuxième dose. Donc, on va devoir repartir le thermomètre à zéro à un moment donné. Puis quelles sont les stratégies que le gouvernement va employer pour amener les gens à se refaire vacciner une deuxième fois alors que les cas de COVID vont être vraiment très, très bas. Ça risque d'être pendant l'été, au début de l'automne. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Je regardais aux États-Unis, il y a toutes sortes de stratégies. Uber, par exemple, ils payent le Uber gratuit.
Ils ne donnaient pas une bière aussi dans certains états?
Ben, exactement, il y a ça. J'ai entendu que dans certains stades, dans des endroits là, très de masse, donc tu reçois ta deuxième dose, puis ça te permet d'entrer puis de participer. En tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir là, la suite des choses sur ce respect-là.
Dis-moi, Elsie, tu as été vaccinée, là?
Oui. J'ai été vaccinée lundi.
Tout va bien?
Tout va bien. Oui, donc je suis pas mal. Ça m'a donné une émotion. Ça a été la même chose pour toi, mais je suis rentrée dans le site. Moi, je suis allée au Palais des Congrès. Je me disais, bon, je vais aller au centre-ville. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Puis quand j'ai vu tout le personnel de la santé, je suis devenue un peu les yeux pleins d'eau, le mouillé, tu sais, je me disais, tu sais, c'est comme une illustration des petites abeilles qui travaillent pour nous, puis tu sais, de ce mouvement collectif dans lequel on est tous pris ensemble, finalement, tu sais, on vit tous la même. Hier, je parlais à quelqu'un au niveau du travail, puis il me dit, ah, mais je dois vous laisser, là, j'ai un appel de la santé publique pour mon vaccin, mais tu sais, on est tous solidaires, on vit tous la même chose, donc bref,
t'as été vacciné au Palais des Congrès puis t'as pas vu Émile Bilodeau. C'était pas la journée des ultra jeunes.
Émile Bilodeau.
que c'est dommage, la mascotte de la vaccination. Merci beaucoup, on te lit dans le journal.
Merci, Geneviève.